Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Bonjour et bienvenue à cette première édition de la journée sur Studio Tamani. Au menu de ce journal, le village de Dlongebougou du cercle de Ségou vit sous la menace des groupes terroristes. Selon des sources locales, six groupes armés ont tué un paysan et enlevé un autre. Cependant, des sources militaires affirment que le village de Dinangourou est sous contrôle des forces armées maliennes. Pendant l'hivernage, l'inquiétude monte d'un cran dans certains établissements de Bamako. La dégradation des salles de classe et l'écoulement de l'eau risquent de compromettre le reste des programmes de l'année scolaire, regrettent des responsables d'école. Pour plus de 80% des Maliens, le prix de la connexion à l'Internet n'est pas abordable. Certains d'entre eux dénoncent la qualité du service. Telle est l'information donnée par Internet Society Mali sur l'état de l'Internet au Mali. Plus de détails dans un instant. À la présentation, Moumine Sendebou, Gagné Kanté assure la mise en onde. Les habitants du village de Dlongebougou dans la commune de Doura du cercle de Ségou vivent sous la menace des prix eximés groupes terroristes, explique-t-il. Selon des sources locales, ces groupes armés ont tué un paysan et enlevé un autre. D'autres témoignages indiquent également que des affrontements sporadiques entre les populations et ces hommes armés sont fréquents dans la zone. Cependant, la direction de l'information et des relations publiques avec les armées demande les allégations selon lesquelles le village de Dinangourou serait sous le blocus des présumés terroristes. Les détails dans ce reportage de Hawa Berthi.
Selon des témoignages concordants, le village de Dlongebougou du cercle de Ségou serait sous le contrôle des groupes djihadistes. Des habitants de la localité expliquent que ces groupes armés les empêchent de cultiver leurs champs.
À l'heure où nous sommes, personne ne sait qu'ils sont menacés. On demande seulement la sécurité. Parce qu'il faut savoir que c'est maintenant là que les populations cultivent les champs. Donc si cela est menacé, ça sera compliqué parce que la vie est seulement sur l'agriculture et l'élevage. Et personne n'a le droit de rentrer dans la forêt. Et quand tu n'es pas dans la forêt, comment tu peux cultiver?
Toutefois, les autorités militaires recusent les informations lesquelles le village de Dinangourou serait sous le blocus des groupes terroristes depuis quelques mois. Selon la direction de l'information et des relations des forces armées et de sécurité, ce village demeure sous le contrôle des forces armées maliennes. Colonel Souleymane Dambélé, chef de la DIRPA.
On ne peut pas être à Dinangourou pour dire que Dinangourou est sous embargo. Et à un moment donné, j'ai démenti cette information en disant que les FAMA rayonnent à Dinangourou. Ne serait-ce que la semaine dernière ou la semaine d'après, les FAMA ont fait des actions civilo-militaires. Donc on fait des donations aux populations.
Selon les responsables de la DIRPA, les forces armées maliennes montent chaque jour en puissance. Une nouvelle opération a permis, selon lui, de neutraliser 245 terroristes et interpeller plus d'une centaine.
8 heures passées, 2-3 minutes. Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. L'accord signé entre les syndicats des bouchers et le gouvernement n'a pas été appliqué hier à Bamako et environ le prix du kilogramme de viande avec os qui devrait être cédé ce mardi matin à 2300 francs est toujours vendu à 3000 francs CFA. Les consommateurs ne cachent pas leur frustration. Le syndicat des bouchers appelle les commerçants à respecter l'accord. Mamadou Samasekou a fait un tour au marché suivant son reportage.
Il est 10h20 ce lundi au marché du quartier Médine dans la capitale malienne. Les clients y sont nombreux pour leurs achats. Mais beaucoup d'entre eux ne sont pas contents aujourd'hui aussi. Habillé en robe, son panier en main, c'est avec le visage un peu triste que mademoiselle Si déplore la cherté des prix de viande avec os et sans os.
Ah, les prix sont pas très abordables parce que le prix de la viande en os, c'est 3000 francs. Donc c'est cher. Il faut que les autorités essayent de diminuer encore. Pour que nous, population, nous puissions manger de la viande moins chère. 3000, c'est trop. C'est trop pour la population.
Pourtant, le syndicat des bouchers avait annoncé la vente du kilo de la viande entre 2300 et 2800 francs CFA. Dans les marchés, certains bouchers disent respecter l'accord, d'autres affirment que c'est difficile de vendre la viande à ces prix.
Ça devait commencer, mais ça n'a pas commencé. À vrai dire, j'avais les volontés, mais c'est impossible. Les gens s'est rendu compte, vraiment, c'était une perte totale.
On a vraiment respecté l'accord, mais en réalité, ce sont les bœufs qui sont introuvables.
Le syndicat national des bouchers est pourtant catégorique sur le sujet. Celui qui ne respecte pas les prix du protocole signé sera sanctionné, déclare Amsoulaye Diallo, secrétaire général du syndicat national des bouchers.
En tout cas, nous avons fait un accord avec l'État. On a demandé à tous nos adhérents de respecter l'accord. Ceux qui ne respectent pas l'accord, il faut les dénoncer. Il n'y a pas de demi-mesure à ça, il n'y a pas d'excuse à cela. Tu en bas et puis on te subventionne.
L'accord de 2 mois sur la baisse des prix de la viande concerne Bamako, la ville de Kati environ. Il devrait rentrer en vigueur ce lundi 12 juillet. Mais sera-t-il réellement respecté? Sur la question, les consommateurs continuent d'interpeller les autorités du pays.
Sur un tout autre sujet, le mot d'ordre de la grève de l'association des élèves et étudiants du Mali, AEMA, est levé. Il y a eu ce lundi soir un compromis entre le gouvernement et les responsables de l'association. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Par ailleurs, en cette période d'hivernage, plusieurs écoles sont inondées à Bamako à cause de leur mauvais état. Des responsables de ces établissements se disent qu'il y a de la situation. Pour eux, ces conditions risquent de compromettre le reste du programme de l'année scolaire. On en sait plus avec Fatia Tara.
Nous sommes ici au groupe scolaire des Misira, une école qui abrite 9 premiers cycles et 7 seconds cycles dans la commune de Bamako. Les plafonds de certaines salles sont très abîmés. Ils comportent d'ailleurs de grandes fentes par lesquelles les eaux de pluie envahissent les classes où les élèves prennent les cours. Issoufou Alidou, enseignant généraliste, nous raconte leur calvaire.
Souvent, nous sommes obligés de libérer les enfants parce que les conditions ne nous permettaient pas vraiment de maintenir les enfants dans les classes. Vous-même, vous voyez. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes obligés d'apporter tous les documents avec nous à la maison parce qu'ils ne sont pas à l'abri. Nous avons enregistré des dégâts matériels tels que les bulletins des enfants.
Les responsables de ces groupes scolaires regrettent l'inaction des autorités qu'ils disent avoir alerté depuis au début de la situation. Jean Djigui Kanouté, coordinateur du groupe scolaire de Misira.
Et il y a juste une semaine, le CAP a dépêché une délégation de l'académie pour venir constater. Donc ils sont venus constater, mais depuis leur départ, on n'a rien vu.
Rappelons que la prolongation de l'année scolaire jusqu'au mois d'août est un dispositif mis en place par les autorités pour compenser les perturbations engendrées par les grèves répétitives.
Je le disais tantôt dans les titres, plus de 80% des Maliens trouvent le coût de l'Internet élevé et plus de 70% ne sont pas satisfaits de la qualité de la connexion Internet. C'est du moins ce qui ressort du récent rapport d'études réalisé par Internet Society Mali, ISOC Mali, sur l'état de l'Internet au Mali. Dans ce document présenté à Bamako le 8 juillet dernier, les responsables d'ISOC Mali demandent aux autorités de créer des conditions pour améliorer l'accès des populations à l'Internet. Toutefois, les autorités rassurent que des dispositions sont en cours pour faciliter l'accès à cet outil de travail. Moussa Mali Sissoko était présent à la rencontre.
Selon le président de ISO Mali, cette étude démontre le niveau d'utilisation de l'Internet sur l'ensemble du territoire national du Mali. Bakary Kouyaté estime que le tableau est loin d'être reluisant. Pour cela, il interpelle les acteurs du secteur en vue d'une Internet de qualité pour tous.
Nous avons mené cette étude jusqu'à Kidal, mais qui nous a permis de collecter les données à travers les différentes zones concernées.
Bon, l'État doit travailler en synergie avec les opérateurs télécoms pour essayer vraiment de diminuer le prix de l'Internet. Parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'on ne peut pas diminuer le prix toujours envahi par les promotions, toute la journée, toute la semaine. Donc au lieu de faire des promotions, mais autant baisser la connexion.
Pour le conseil technique au ministère de la Communication, cette initiative est salutaire. Souhaibou Koulibaly estime qu'elle servira de la matière pour son département dans le cadre de la programmation des projets.
Une première politique depuis 2005 qui a été remplacée par une politique élaborée en 2015. Et dans cette politique, il est prévu dans le premier axe l'accès aux infrastructures de connexion. Et donc cette politique existe et est en train d'être mise en œuvre. Et dans cette politique, ce n'est pas que l'État, c'est l'État plus les opérateurs de télécommunications.
Cette étude a été effectuée entre juillet et septembre 2020 dans 13 localités, dont le district de Bamako. Plus de 6500 personnes ont été interviewées par 50 enquêteurs.
Parlons à présent de la vente des médicaments de la rue. Cette vente reste un phénomène inquiétant au Mali. Ces produits sont généralement étalés au bord de route, dans la rue ou au marché. Comment les vendeurs de ces médicaments se ravitaillent? Quelles peuvent être les conséquences sur la santé? Éléments de réponse dans ce reportage de Zanga Abdoulaye Ouattara.
Depuis quelques années, les médicaments de la rue inondent plusieurs endroits de la capitale malienne. Leur provenance est méconnue pour la plupart des consommateurs et des vendeurs. Pour certains d'entre eux, ces produits proviennent des pays voisins.
En réalité, je ne sais pas d'où proviennent ces médicaments. Je m'approvisionne quand même ici au marché.
Il y a des gens qui nous amènent ces médicaments du Nigeria et du Ghana. À notre tour, nous achetons avec eux pour les vendre.
Et nous les vendons pour subvenir à nos besoins.
Pour le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Mali, Dr Boubacar Richard, la consommation de ces médicaments a des méfaits sur la santé du consommateur. En plus, cette activité est interdite et punie par des dispositions de la loi, dit-il.
La vente des médicaments est une entorse à la loi. C'est des médicaments qui ne répondent pas aux normes. Ils ne sont pas bien conservés. Nous ne pouvons que dénoncer, informer qui des droits. Nous n'avons pas de moyens de pression.
Selon les textes, tout vendeur de produits pharmaceutiques n'ayant pas une autorisation de vente sera puni d'une amende allant de 100 000 à 1 million de francs CFA.
Nous ouvrons maintenant la page santé de cette édition. Les autorités sanitaires ont enregistré ce lundi 12 juillet 13 nouveaux cas de COVID-19, 303 patients guéris et 0 décès. À ce jour, la situation cumulée est de 14 476 cas positifs, dont 10 405 guéris et 528 décès. Place à présent à notre chronique Acti-Covid présentée par Moussa Mali Sissoko.
Plus d'une année après l'apparition de la maladie à coronavirus au Mali, certains patients guéris développent d'autres pathologies respiratoires. C'est ce qu'affirme le chef du département pneumologie et physiologie au CHU du Pongé. Selon lui, près d'une centaine de personnes font aujourd'hui l'objet d'un suivi médical. Le médecin précise que ces malades âgés de plus de 60 ans sont majoritairement des hommes. Écoutons les explications de professeur Yacouba Toloba, chef du département pneumologie et physiologie au CHU du Pongé.
Dans la prise en charge de la COVID, il y a maintenant à peu près un an, on n'avait pas assez de recul. Nous sommes dans cette dynamique. Il y a des séquelles, ces complications-là vont d'une simple complication qu'il faut suivre, mais qui vont se cicatriser à moyen terme.
Alors, est-ce que certains en guérissent?
Il y a deux types de complications séquelaires. Il y a des complications séquelaires qui guérissent. Il y a des complications séquelaires qui, malheureusement, ne guérissent pas. Et c'est ces malades qui vont évoluer vers une insuffisance respiratoire. L'insuffisance respiratoire, c'est l'incapacité des poumons d'assurer sa fonction respiratoire. Et aussi des malades qui avaient des comorbidités. Par exemple, quelqu'un qui a beaucoup fumé, qui attrape la COVID, et après la COVID, son emphysème est aggravé.
Comment se passe la prise en charge des patients? Est-ce que c'est l'État qui prend en charge ou bien c'est à leurs frais?
Justement, c'est ça le problème. Parce qu'on a élaboré des directives, on dit que c'est une urgence mondiale et tout ça. Et non, aucun problème de COVID, mais ils ont des complications. Mais à partir de là, ces patients eux-mêmes payent leurs médicaments, ils payent l'hospitalisation, ils payent les repas et tout ça. On n'a rien prévu pour eux. Donc, c'est des malades qu'on suit comme des asthmatiques que nous suivons, comme des bronchites chroniques, comme des emphysémateux, comme les autres insuffisants respiratoires.
Place à la question d'auditeur du jour. Elle est répondue par Dr Boubacar Sidiki Dramé, point focal COVID-19 à l'hôpital du Mali.
Est-ce qu'une personne déjà vaccinée a besoin de faire fréquemment des tests PCR?
Quand on est vacciné, on n'est pas protégé contre l'infection, mais on est plutôt protégé contre une forme grave de cette infection à coronavirus. Cela veut dire que si vous êtes vacciné, vous pouvez contracter le virus, l'incuber sans évoluer vers la forme grave et contaminer même quelqu'un. Cela est bien possible, d'où la nécessité de faire le dépistage.
Ainsi prend fin ce numéro d'Acti-Covid. Merci de l'avoir suivi. Respectez les mesures d'hygiène pour vous protéger du coronavirus.
Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Un tour à présent dans les régions Assan, les villages de Kamangasu, Nyangolunu et Tarausso dans la commune de Suruntuna ont signé vendredi une convention de l'abandon de l'excision et le mariage des enfants dans leur localité. La convention a été signée par les chefs de village, le maire et le représentant du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et en présence des responsables des femmes des trois villages. Selon le représentant des signataires, l'objectif est de préserver les futures mamans contre les inconvénients de l'excision et du mariage précoce. 20 femmes leaders du Caillon ont suivi le samedi dernier une session de formation sur le suivi budgétaire. L'objectif, selon les organisateurs, est de renforcer les capacités des femmes dans le suivi budgétaire. La formation a été organisée par l'association Djekabara à travers le programme Hibiscus sur financement de l'Union européenne. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. La version Bambara tout à l'heure avec Idrissa Sako. Comme vous le savez déjà, vous pouvez réécouter ce programme sur notre site web www.sidiotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321.